Ce qui suit est une production de WebWest Balado. Entendons-nous bien.
Salut, ici Jean Fontaine. Raconte-moi l'Ouest et le Nord. Aujourd'hui, Diki Dikamba, raconte-moi Kanavua. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec Diki Dikamba. C'est un homme d'action qui fait une différence dans la vie de milliers de personnes en Alberta. Il est arrivé à Edmonton en février 2008, originaire de la République démocratique du Congo. Il a rapidement voulu intégrer le tissu social de la francophonie albertaine. Et un an après son arrivée au Canada, il fonde à Edmonton Kanavua, un organisme qu'il a créé pour promouvoir le bénévolat en français. Et aujourd'hui, cet organisme, l'Association des volontaires unis dans l'action au Canada, compte plus de 1000 bénévoles. Kanavua offre entre autres un service de distribution de nourriture et un service d'accompagnement pour des rendez-vous médicaux. La clientèle est variée. Elle compte des familles moins favorisées, des aînés, beaucoup de nouveaux arrivants aussi. Diki Dikamba a récemment été nommé parmi les 10 lauréats du palmarès des personnalités influentes de la francophonie canadienne de 2021 par Francopresse. Et il est avec moi depuis Edmonton. Monsieur Dikamba, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jean Fontaine.
Vous avez une fiche de route qui est fort impressionnante, même si votre arrivée au Canada ne remonte qu'à, 13 ans. Alors, donc, c'est quand même assez exceptionnel. Mais j'aimerais qu'on parle tout de suite, Monsieur Dikamba, de Kanavua. Donc, volontaires unis dans l'action au Canada, Canadian Volunteers United in Action. Qu'est-ce qui est à l'origine de la fondation de cet organisme-là?
Bon, ce qui est à l'origine de la fondation de cet organisme, c'est mon vœu le plus ardent de pouvoir m'impliquer dans ma communauté, surtout dans la communauté francophone, qui est une communauté vivant dans une situation minoritaire. Et une fois arrivé à Edmonton, j'ai eu à offrir des services bénévoles auprès d'autres organisations que j'avais eu à trouver sur place. Et tout de suite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une structure pour pouvoir coordonner et valoriser le bénévolat dans la communauté francophone. Effectivement, on avait un pendant anglophone, Volunteer Alberta, Volunteer Edmonton, et à Calgary, il y avait Volunteer Calgary, mais il n'y avait rien dans la communauté francophone. C'est ce qui m'a motivé à pouvoir créer aussi un organisme qui puisse nous permettre à faire du bénévolat, comme toute personne qui arrive aussi en Alberta, qui cherchait un endroit pour pouvoir faire du bénévolat. Soit on vous offrait des missions qui sont assez sporadiques, limitées dans le temps, mais avoir une organisation complètement dédiée au bénévolat, ça a été le vœu le plus ardent pour moi pour pouvoir créer une organisation afin d'aider des milliers de bénévoles ici dans la francophonie albertaine vivant dans une situation minoritaire.
Je pense que c'est assez unique dans la francophonie canadienne, en tout cas, ce genre d'organisme-là. Comme vous l'avez dit, il y a des pendants anglophones, il y en a beaucoup, mais en français, est-ce que c'est une première au Canada?
Je crois que c'est une première parce que si on fait la revue de la littérature, moi je n'ai pas encore vu un organisme complètement dédié dans la francophonie à promouvoir et valoriser le bénévolat en français. Donc je crois que c'est une pratique qui puisse être inspirante pour d'autres communautés vivant en situation minoritaire, notamment au Québec ou bien dans l'Est canadien. Je pense que c'est une pratique que plusieurs membres aussi de la communauté pourraient aussi s'inspirer, ou à défaut, le Kanavua pourrait aussi s'implanter un peu partout au Canada.
Oui, absolument. Et on y viendra sans doute un petit peu plus tard dans l'entrevue. Mais parlons maintenant de ce que fait Kanavua, parce qu'évidemment, on a un millier de bénévoles et plus là, qui font partie de Kanavua. Quels sont les secteurs qui vous occupent?
Oui, le Kanavua, c'est une organisation qui a comme épine dorsale la lutte contre l'insécurité alimentaire, notamment en offrant des services alimentaires comme des paniers qu'on offre aux membres de la communauté tous les lundis. Nous avons un service d'un camion-restaurant communautaire, ce qu'on appelle en anglais le Kanavua Community Food Truck, c'est-à-dire nous offrons 350 à 600 repas par semaine pour les populations défavorisées ou marginalisées dans nos communautés. et les populations nouvellement arrivées en Alberta. Et donc, je pourrais dire que nous avons eu affaire de la lutte contre l'insécurité alimentaire, notre cheval de bataille, mais il y a plein d'autres dossiers qui sont sur la table, mais qui sont aussi liés aux inégalités, notamment la lutte contre la précarité des logements dans la francophonie albertaine auprès des nouveaux arrivants, auprès des personnes nouvellement arrivées en Alberta. Donc, ce sont des défis auxquels nous sommes confrontés, mais je pense que nous allons y arriver en offrant plusieurs services aux membres de la communauté.
Est-ce que, par exemple, un organisme pourrait s'inscrire auprès de Canavua, dire « j'ai besoin de 12 bénévoles pour un événement qui s'en vient à telle date » Comment ça fonctionne exactement?
À la base, nous sommes un organisme facilitateur de la mise en relation entre les bénévoles qui recherchent des missions bénévoles et les organismes qui recherchent des bénévoles. À chaque fois qu'une organisation fait recours à Canavua pour avoir des bénévoles, nous sommes en mesure de pouvoir d'envoyer des bénévoles. Et on les voit partout ici en Alberta avec leurs t-shirts jaunes. C'est notre marque déposée. Quand on voit un bénévole avec un t-shirt jaune marqué Canavua, et c'est nettement visible dans la communauté ici en Alberta.
Le navigateur en santé, j'aimerais y revenir un peu parce que je pense que c'est un petit peu à l'origine aussi de votre mouvement communautaire en Alberta, parce que quand vous êtes arrivé, vous cherchiez des services en français et rapidement, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des aînés qui avaient des besoins pas très loin de la cité francophone à Edmonton.
Oui, effectivement, la cité francophone se situe à deux pas du manoir Saint-Thomas et aussi au centre-ville d'Edmonton, à 7 minutes de la cité francophone. Nous avons un manoir aussi francophone. Alors, nous nous sommes rendus compte que les aînés francophones avaient des besoins purement spécifiques, notamment l'accompagnement à leur lieu de rendez-vous médicaux. Et certains d'entre eux, on offre un service d'interprétation si le besoin se fait sentir. Au commencement de notre organisation, nous avons eu à commencer à pouvoir accompagner ces patients à leur lieu de rendez-vous médicaux et aussi à aider les personnes nouvellement arrivées en Alberta à arriver à leur lieu de rendez-vous en temps et en heure. Aussi, notamment des femmes enceintes, parfois des familles monoparentales qui n'ont pas de ressources pour pouvoir les aider. Et c'est ça qui a été à l'origine de la création de ce service d'accompagnement des patients à leur lieu de rendez-vous. Il a été aussi financé par Santé Canada pendant plusieurs années. Et puis par la suite, le service est aussi financé par d'autres organismes partenaires.
D'accord. Et d'ailleurs, l'importance des partenariats pour vous, je pense que c'est assez fondamental.
Oui, c'est très fondamental. Vous savez, une structure qui sort du néant et puis une structure qui naît de la volonté ou bien d'un leadership d'un membre de la communauté nécessite la création des alliances stratégiques. Une fois que vous nouez des alliances stratégiques, ça vous permet de pouvoir naviguer dans le système, comprendre le système et répondre aux besoins de la communauté. C'est ainsi que nous avons eu à créer ces partenariats avec notamment le Campus Saint-Jean, l'Université de l'Alberta, le Réseau Santé Albertain. Ce sont des partenariats qui ont été très stratégiques pour nous et aussi le gouvernement provincial, municipal et puis le gouvernement fédéral. Ça a été quelque chose de très bénéfique pour notre organisation et pour les membres de la communauté.
Vous avez toujours senti cet appui de la part des organismes communautaires et des gouvernements pour Canavua?
Ah oui, l'appui, ce n'est pas par rapport aux beaux yeux de nos bénévoles. Non, l'appui, c'est effectivement en fonction de réalisations sur terrain. Parce que nous faisons de la différence. Comme le dit bien Canavua, Canadian Volunteers United in Action, alors nous sommes une association des volontaires unis dans l'action. L'action, c'est notre leitmotiv. L'action bien réelle, avec des résultats palpables sur terrain. Et c'est comme ça que nous bénéficions de cette clémence de la part de plusieurs partenaires, de la part de plusieurs membres de la communauté.
Monsieur Dicky Dikamba, j'aimerais revenir un peu sur l'insécurité alimentaire parce que c'est quand même, je pense, un des fleurons, si je peux dire, de Canavua. Vous avez parlé des food trucks ou des camions qui servent de la nourriture. Vous avez parlé également de distribution de nourriture. Il y a même une journée maintenant de fruits et légumes. Comment vous organisez tout ça? Et puis, écoutez, comment ça fonctionne, par exemple, de pouvoir donner des fruits et légumes à des familles démunies?
Oui, déjà d'emblée, j'aimerais bien signifier que le Canavua fait partie de ce qu'on appelle les organisations pour la bonne nourriture, faisant partie des centres communautaires d'alimentation du Canada. C'est ainsi que ce financement nous permet de pouvoir faire la différence dans notre communauté. Parce que vous vous rendez compte que les fruits et légumes, ce sont des aliments qui coûtent très très cher. Et puis, plusieurs personnes, les aînés, les personnes nouvellement arrivées, les familles monoparentales, ça coûte très cher. C'est tellement difficile pour eux de pouvoir nouer les deux bouts du mois et puis s'offrir des aliments qui puissent leur permettre, par exemple, en termes de calories, en termes de santé, de pouvoir mieux se garder en forme. Alors, une organisation comme la nôtre, nous avons mis en place au début de la pandémie cette stratégie à pouvoir aider les populations vulnérables avec des aliments sains et nutritifs.
Est-ce qu'on sait combien de familles, combien de personnes vous êtes en mesure d'aider chaque mois, par exemple?
Je vais vous donner des chiffres. Par exemple, pour le service du lundi, nous avons un service de distribution de paniers. Nous sommes en fait une succursale francophone de Edmonton Food Bank. Donc, nous arrivons à offrir à plus de 80 familles le lundi des paniers alimentaires. On arrive à joindre 80 familles. Le mercredi, nous avons un service de distribution des repas chauds avec notre camion restaurant. Alors, pour la distribution de repas chauds, nous avons une marge de 300 à 350 repas que nous distribuons. Donc, on peut facilement atteindre 300 à 350 personnes un mercredi. Le vendredi, nous avons notre service de fruits et légumes. Dans notre base de données, les personnes qui sont inscrites pour juste le programme de fruits et légumes le vendredi, nous avons 250 familles. Et les personnes, ces familles viennent en personne pour pouvoir récupérer les fruits et légumes. Mais par contre, nous avons une exception pour les aînés qui ne sont pas en mesure de pouvoir se déplacer. Alors, nous avons une batterie de bénévoles qui sillonnent toute la ville d'Edmonton, que ce soit au nord, au sud, au centre-ville, pour faire la distribution de ces fruits et légumes.
C'est assez incroyable. Ce sont des chiffres extrêmement impressionnants. Je sens qu'il faut avoir aussi beaucoup, comment dire, de compassion, d'empathie pour les gens, pour vouloir justement développer un organisme comme le vôtre. J'aimerais ça parler un peu de votre histoire personnelle, parce que vous êtes natif de la République du Congo. Je pense que votre papa vous a beaucoup influencé.
Oui, il m'a beaucoup influencé de mon jeune âge. Comme je l'ai dit souvent, j'étais son petit parfait secrétaire. Parce que c'est un homme qui était ouvert au monde et il a eu à créer une organisation quand le Congo s'appelait, la République démocratique du Congo s'appelait Zaïre. Cette organisation s'appelait le REZADELAC, le réseau zaïrois pour la promotion et la défense des libertés académiques. C'est une organisation qui évoluait dans le milieu académique. Alors, il avait plusieurs partenaires à l'étranger à l'époque. Alors, quand il voyageait très souvent, il ramenait plusieurs revues, plusieurs ouvrages avec des contacts. Alors moi, j'étais son parfait secrétaire en train de réécrire ces contacts dans un autre petit calepin, dans un autre dossier. Alors ça aiguisait un tout petit peu cette fibre sociale en moi. C'est ça qui m'a poussé à pouvoir faire des études de littérature et puis ensuite faire le droit. Et je pense que ce que je fais aujourd'hui, c'est l'administration d'une justice sociale.
D'accord. Et puis parlez-nous un petit peu de votre parcours, parce que vous avez quitté le Congo. Je pense que vous aviez fait des études en droit là-bas et ensuite, vous vous êtes dirigé vers Tours, en France.
Oui, je me suis dirigé à Tours, en France. J'ai atterri à Strasbourg, où j'ai eu à faire une formation en droit international. Et puis ensuite, je me suis inscrit à l'Université de Tours pour faire les études en droit. Et par la suite, j'ai eu à travailler dans une clinique universitaire. Et cette fibre associative n'arrivait pas à se départir en moi. Je me donnais beaucoup plus dans des organisations caritatives comme Emmaüs en France, les Restos du Cœur à Tours, mais le plus grand saut, c'était le Canada. Une fois arrivé au Canada, je me suis dit, je vais me lancer dans les organisations bénévoles et communautaires.
Et je pense que votre père est probablement très fier de vous. Il est toujours professeur, je pense, à Kinshasa, en République du Congo.
Oui, démocratique du Congo. Il est toujours professeur d'université à Kinshasa. Et puis, il a eu à me visiter ici en Alberta, à Edmonton. Il était très fier, il est toujours très fier de cette organisation. Et son vœu le plus cher, c'est de voir Canavua aller outre-Atlantique et puis faire la promotion et la valorisation du bénévolat dans des pays de l'Afrique subsaharienne. subsaharienne, c'est son vœu, mais je pense qu'on y arrivera. Mais pour l'instant, nous sommes en train de servir nos communautés vivant en situation minoritaire ici au Canada.
Évidemment, c'est sûr que ce serait magnifique de pouvoir appliquer le genre de modèle que vous avez développé, M. Dikamba, ailleurs, au Canada. Je sais qu'il y a eu quand même une aventure de 3 ans à Calgary, si je ne me trompe pas.
Ah oui, oui, oui. C'était dans le cadre du plan d'action pour les langues officielles 2013, la feuille de route 2013-2018. Mais comme la feuille de route s'est estompée en 2018 et que les projets qui ont été financés ne pouvaient pas être repris par la nouvelle feuille de route 2018-2023, nous n'avons pas pu assurer un financement pour maintenir ce service à Calgary, mais je pense que nous ferons un rebond sur Calgary dans les jours à venir.
Je sais que votre père vous voit déjà outre-Atlantique, en Afrique, pour développer des canavois d'un autre modèle, mais ici au Canada, est-ce que vous avez aussi, outre Calgary, est-ce que vous avez des aspirations d'installer votre modèle peut-être ailleurs, dans d'autres provinces ou territoires?
Ah, absolument. Absolument. En début d'entrevue, vous avez à le dire vous-même que c'était un modèle typiquement original. Donc, notre vœu, c'est de pouvoir réimplanter cette pratique inspirante dans d'autres provinces. Notamment, nous pensons au Manitoba, nous avons des visées sur l'Ontario et puis des visées vers Vancouver, dans le British Columbia, la Colombie-Britannique. Mais tout ceci, je pense que avec cet appui du gouvernement par rapport aux initiatives de soutien aux communautés noires, donc les organisations dirigées par des Noirs, nous avons ferme espoir que nous serons en mesure de pouvoir développer nos projets, nos programmes dans d'autres provinces. Et j'espère que ce financement va continuer.
C'est effectivement un espoir important. Vous avez parlé du fait que les nouveaux arrivants, donc les gens qui viennent d'ailleurs, c'est une clientèle qui est importante pour Canavois. Est-ce que c'est une clientèle qui est de plus en plus importante?
Oui, c'est une clientèle qui est de plus en plus importante. Pourquoi? Parce que les personnes nouvellement arrivées en Alberta, les nouveaux arrivants sont considérés aussi comme des personnes vulnérables en termes d'accès aux services. Et donc, cette clientèle, c'est une clientèle qui est desservie par notre organisation de plusieurs manières, notamment avec l'aide à l'intégration, par exemple. Nous aidons ces nouveaux arrivants à pouvoir s'intégrer dans la communauté, comprendre comment que le bénévolat fonctionne ici au Canada. Le bénévolat fait partie de ce qu'on appelle des pratiques qui sont exemplaires pour aider les personnes nouvellement arrivées à pouvoir naviguer dans la communauté. Ce sont des types de comportements prosociaux, par exemple le don, l'offre du temps à autrui et le bénévolat. C'est ça notre cheval de bataille. Nous essayons d'inculquer ces manières aux personnes nouvellement arrivées. Et nous pensons que nous sommes en phase de pouvoir réussir notre mission parce que ils s'impliquent, ils redonnent du temps dans leur communauté parce qu'en même temps qu'ils sont bénéficiaires des services offerts par les organisations communautaires et en même temps, ils redonnent aussi à la communauté.
Monsieur Dikamba, c'est un organisme qui est devenu très grand, Canavois, et qui sert autant des familles anglophones que francophones. Mais quelle est l'importance encore aujourd'hui de la francophonie? Et est-ce qu'à Canavois, on réussit à opérer un petit peu en français, à se parler en français? Est-ce qu'il y a des bénévoles qui sont francophones, par exemple?
Ah oui! Ah oui! Quand vous arrivez chez Canavua, les bénévoles parlent français et puis les membres de la communauté anglo-dominante qui veulent pratiquer leur français viennent faire du bénévolat avec nous. Et donc, le Canavua, c'est un mouvement qui va s'étendre un peu partout.
Monsieur Dikamba, paraît-il, et là, je ne sais pas si ce sont des rumeurs, mais j'ai lu dans certains articles que votre surnom, c'était « Monsieur le député ». Est-ce exact?
Ouais, ça me fait sourire. Bon.
Mais
ouais.
La question est, est-ce que vous avez des aspirations politiques? Parce que certains vous prêtent certaines aspirations politiques.
C'est vrai que à ce niveau, je ne peux plus le cacher.
D'accord. Vous avez... Alors, c'est quelque chose que vous envisagez peut-être éventuellement.
Non, c'est des aspirations. C'est des aspirations parce que je pense que en travaillant avec la communauté, je crois que en tant qu'acteurs dans la communauté, nous savons très bien initier de programmes pour répondre aux besoins de la communauté. Mais je pense que ça serait mieux aussi pour les personnes d'ascendance africaine de se retrouver là où aussi se prennent des décisions.
Alors ça reste à suivre, mais évidemment, on va suivre ça de très près. J'aimerais, en terminant, parler de l'avenir de Kanavua. On en a parlé brièvement du fait qu'on voudrait peut-être prendre de l'expansion. Mais dans 10 ans, où est-ce que vous aimeriez voir cet organisme?
Dans 10 ans, je vois Kanavua comme des grandes structures comme Catholic Social Services, je vois Kanavua comme Mennonite Center. Et donc, avec cet appui du gouvernement, j'insiste beaucoup, l'appui du gouvernement aux initiatives soutenues par des Noirs, quand on voit comment que les organismes qui sont gérés par des communautés autochtones, qui sont très bien financés aussi, ou bien les organismes qui sont gérés par la communauté anglo-dominante, qui sont aussi très bien financés. Donc, dans la francophonie en situation minoritaire, nous avons aussi à faire des efforts. Ouais, je pense qu'on peut faire aussi des efforts à ce niveau-là. Ouais. Ça, c'est un cri que je lance auprès du gouvernement, à tous les paliers de gouvernement, de pouvoir assister ces communautés. Parce que si on ne le fait pas, les services ne seront pas assurés pour ces membres de la communauté.
Je rappelle que vous avez été nommé parmi les 10 lauréats du palmarès des personnalités influentes de la francophonie canadienne en 2021 par Franco-Presse. Comment vous avez réagi quand vous avez appris ça?
Bon, ça a été une surprise pour moi parce que j'avais reçu un coup de fil. J'ai reçu un coup de fil quoique j'ai été nominé. Moi, je crois que les actions posées sur terrain parlent d'elles-mêmes et que cet honneur vaut pour les milliers de bénévoles qui donnent de leur temps dans la communauté. Cet honneur vaut pour toutes ces personnes qui essaient de faire la différence dans leur communauté et puis de pouvoir inspirer aussi les plus jeunes. Je pense que ce prix, c'est un prix pour eux et puis modestement, je l'accepte et puis ça a eu à me faire plaisir quand on reconnaît les actions ou bien les actions qui sont posées par certains membres de la communauté, ça encourage et puis ça nous aide à aller de l'avant.
Alors, si on voit des gens en T-shirt jaune à Edmonton avec Kanavua d'inscrit sur le T-shirt, on va savoir que ce sont des gens qui font partie de ce grand mouvement de bénévoles que vous avez démarré. Je tiens à vous remercier. C'est vraiment fascinant. C'est une belle carrière. C'est une magnifique initiative. C'est vraiment important, je pense, ce que fait Kanavua et ce que vous faites, vous aussi, M. Dicky Dikamba.
Merci beaucoup, merci Jean Fontaine.
Ce fut un grand plaisir et puis on va continuer à suivre vos activités et qui sait, peut-être qu'à un moment donné, on se croisera quelque part dans l'Ouest ou le Nord canadien. Merci.
Plaisir est pour moi.
Raconte-moi Kanavua est une production de Web West Balado animée par Jean Fontaine et réalisée par Yann Dallaire. Notre invité, Dicky Dikamba.